1, 2, 3, climat.
L'émission 100% solution.
Comprendre, dialoguer, bifurquer.
Force à vous.
Sobriété et efficacité.
1, 2, 3, climat.
Sur Radio Barthas 107FM.
Et bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs. Ici Thomas pour l'émission 1, 2, 3 Climat, comme tous les troisièmes jeudis de chaque mois.
Le quatrième.
On est le quatrième. Et voilà. Et bah, première erreur. Ça y est, super. Donc, vous voyez, on a changé d'animateur pour cette émission. On fait un roulement. On est encore en test hein, sur 1, 2, 3 Climat. Comme d'habitude, on a les mêmes chroniqueurs, la même équipe. Salut Yannick.
Salut Thomas.
Salut Manu.
Salut tout le monde.
Et salut Philippe.
Eh ben, salut, salut.
Et pour nous accompagner ce soir, on a aussi deux invités. Stéphane, qui est... bonsoir.
Bonsoir.
Stéphane, tu es retraité et engagé à Cévennes Durable actuellement. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que vous faites et quels sont tes nouveaux projets pour cette année. Et on a également Richard.
Salut.
Salut Richard, toi tu es artisan à la retraite aussi.
Exact.
Et tu as construit ta maison en paille et tu vas aussi nous en parler un peu plus quasiment tout de suite puisqu'on va enchaîner immédiatement avec Yannick.
Climat constat.
Donc c'est moi qui commence avec une petite introduction parce que j'ai fait rapide ce soir. On est toujours sur les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Le secteur du bâtiment, parce qu'aujourd'hui c'est la discussion sur les constructions et le bâtiment. Le secteur du bâtiment génère 23% des émissions des gaz à effet de serre du secteur de la France. Ça comprend essentiellement la production des matériaux, le transport des produits, la consommation de carburant sur les chantiers et les pratiques de recyclage qui sont pas au top sur la construction, généralement. Globalement, la construction d'une maison individuelle consomme 40 fois plus de matière qu'une réhabilitation de maison ancienne, qu'il ne faut pas oublier. Et souvent, on se dit on va construire, mais on ne se pose pas forcément les bonnes questions au départ. Il faut surtout réfléchir aux matériaux qu'on va utiliser, mais penser à la localisation où on construit. Qui permet de dire si on est exposé, comment on est exposé, si on est bien exposé. Bon, jusqu'à maintenant, on se posait beaucoup de questions à se dire il faut être exposé plein sud pour être au soleil et au chaud, mais ça va peut-être changer dans les prochaines années où on va chercher à être plutôt à l'ombre, potentiellement, ouais. Du fait de l'augmentation globale des températures, mais c'est peut-être. Les accès aux différents transports, là, parce que globalement, dans les communes, souvent on dit on pose un lotissement et on va le construire parce qu'on a des terrains accessibles au niveau propriété, mais on ne se pose pas vraiment la question de qu'est-ce que ça implique une fois qu'on va y vivre. Donc c'est les accès, la mutualisation du chauffage, des parkings. Et le modèle de la maison individuelle pose maintenant quelques questions sur la consommation des matériaux, du coup de la pollution. Là-dessus, j'ai trouvé quelques trucs assez intéressants sur Internet, mais qui sont plutôt axés pour les professionnels, qui a une base de données environnementales et sanitaires de référence, qui donne toutes les différentes informations sur les produits qu'on peut utiliser, avec vraiment, elle est lourde, mais plein d'informations, tous les produits, si vous cherchez du béton, par exemple, qui est... le matériau qui a le cycle de vie au niveau bilan carbone le pire de tous, et qui est très très utilisé depuis des décennies, mais vraiment au niveau bilan pollution, c'est le pire des matériaux qu'on puisse utiliser pour une maison, pour une construction moderne. Et vous allez sur cette base de données qu'on mettra sur le site internet, hein, qui est ignes.fr, I-N-I-E-S, où pour chaque produit, vous avez le bilan de cycle de vie, la façon de production, d'où les matériaux viennent. Vous avez un bilan global de chaque matériau utilisé par marque. Donc tous les produits, donc c'est assez lourd et difficile à accéder. Hein. Ce que je disais, c'est pas vous n'allez pas voir ça sur votre téléphone, mais il faut un bel écran d'ordinateur et y passer du temps dessus pour lire, parce que c'est écrit petit, oui, et il y a plein d'informations.
Très riche.
Très riche, mais difficile.
Pour quelqu'un qui achète beaucoup de matériaux pour des constructions, ça permet de savoir un peu d'où ils viennent, comment ils sont construits, qu'est-ce qu'ils potentiellement peuvent devenir après. Donc c'est important de se poser la question. Non.
Eh bien moi je vais continuer toujours sur les matériaux. Parce que, ben, comme l'a dit Yannick, hein, bon, le béton, on s'en doutait. Bon, le béton et ses dérivés, hein, parce que le problème dans le béton, c'est surtout le ciment. Donc, tout ce qui est parpaing et tout ça, ben, c'est si on fait une espèce de hiérarchisation des matériaux, forcément, béton, parpaing, c'est en termes d'impact carbone et d'énergie grise, donc toute l'énergie qu'il faut, qui est consommée pour produire, transporter, recycler, ben voilà, ce sont les moins bien classés. Après, en fait, on arrive à tout ce qui est briques. Alors, briques pleines. Les briques perforées, c'est mieux. Je ne sais pas pourquoi, il y a moins de matière. Donc,
moins de matière. Voilà,
mais il faut quand même les chauffer, etc. La monomure, par exemple, est bien mieux classée qu'un parpaing. En plus, c'est mieux isolé, donc c'est encore mieux. Et alors, en termes de béton, alors j'étais étonné, mais le béton cellulaire... Donc, ce qu'on appelle le Ciporex, c'est pas si mal que ça parce que ça chauffe que à 200 degrés. Il y a une réaction chimique avant et tout ça. C'est du sable, de l'argile, un peu de ciment. Et bon, donc, mais c'est quand même quelque chose qui est assez énergivore. Hein. Alors, ensuite, les matériaux suivants, ce sont ce qu'on appelle les éco-matériaux. Alors, là aussi, il faut. Alors, le premier de ces éco-matériaux, c'est le bois. Alors, mais bon, pour le bois, il faut bien aussi regarder d'où vient le bois. Si vous faites une maison en bois exotique qui vient de l'autre bout de la planète, là, on n'est plus dans l'éco-matériaux. Hein. Donc, voilà, on va dire que les éco-matériaux, c'est tous les matériaux qui s'inscrivent dans une logique de développement durable. Et on intègre tout dans le développement durable, transport, etc. Est-ce que ça vient de la déforestation, de l'Amazonie, etc. etc. Donc, le bois... Voilà. Alors après, il y a un matériau qui est pas mal, c'est la brique de terre crue. Alors je crois que c'est pas très répandu quand même. Hein. C'est ce qu'on appelait avant le pisé. Et maintenant, il y a des entreprises qui fabriquent des briques en terre crue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cuisson, c'est uniquement compressé. Et on peut acheter ces briques. Alors avant, si j'ai bien compris, ça se faisait directement sur le chantier. En fait, il y avait des moules et voilà. Maintenant, on peut acheter des briques en terre crue.
Tu ne fais pas une maison avec des briques en terre crue. Hein.
Il faut une ossature.
Tu pourrais, mais c'est compliqué.
Oui. C'est plutôt du remplissage. Plutôt du remplissage, voilà. Donc, il faut une ossature. Là, c'est vrai qu'avec les éco-matériaux, si on prend la brique silico-calcaire, c'est pareil. C'est une brique qui chauffe que à 150 degrés, donc qui est peu consommatrice. Et puis, le béton de chanvre, c'est le chaud chanvre. En fait, tout ça, ça nécessite d'avoir une ossature d'abord. Donc... Si possible en bois, j'ai vu qu'ils...
Chauchan, ils font des trucs porteurs maintenant.
Ah oui ? Eh ben voilà. Donc,
c'est pour ça qu'on invite des experts.
Je ne suis pas expert.
Quelqu'un qui construit, nous on ne construit pas.
On connaît le chauchan, surtout pour les enduits. Et du coup, c'est quoi ? C'est sous forme de briques alors ?
Oui, de grosses briques. Quoi.
Et là, tu n'as pas besoin d'ossature.
Non,
c'est voilà.
Porteur.
Donc, super. Et ça, c'est un matériau c'est un éco-matériau, donc, puisque voilà, chaud, chanvre. Pour finir, on arrive à... Et là, on a un spécialiste, donc on arrive à un matériau qui est classé dans les éco-matériaux, qui est la paille. Et donc, Richard, vous avez vu cette transition, les gars.
C'était bien travaillé.
Donc, Richard, toi, si tu nous fais part de ton expérience, donc je crois que tu as construit une maison en paille. Mais est-ce qu'elle est entièrement en paille ou...
C'est une maison, c'est pas en paille, c'est une maison en fait ossature bois paille.
Oui, c'est ça. Et donc, il y a une ossature en bois.
Le principe est simple. En fait, c'est un principe qui s'appelle le grèbe, qui vient du Canada. C'est-à-dire que tu as deux ossatures bois et au milieu, tu as des ballots de paille.
Oui. Donc, les ballots de paille...
Que j'ai acheté sur le COS Sauveterre.
D'accord. C'est des petits ballots.
Des petits ballots de paille. Le plus dur à trouver maintenant parce que les paysans ne font plus que des grosses bottes.
Oui.
Mais il y en a qui en font exprès pour les maisons en paille. Quoi. C'est des boileaux de paille qui font en longueur, c'est variable, 60, 70, 80, 1 mètre. En largeur, ça fait 45 et en hauteur, 35, 36. Enfin, c'est variable aussi un peu.
Ça n'a pas besoin d'être compressé.
Si, c'est compressé, mais c'est avec les botteleuses, les gens les compressent.
Tu le recompresses pas à la sortie
de la botteleuse? Ah non, non, du tout. Non, non, tu utilises directement les bottes de paille.
Les botteleuses rectangulaires, en fait.
Voilà, les botteleuses qu'ont les paysans.
Oui.
Les...
Donc, c'est un produit agricole
basique. C'est un truc très basique, quoi. Ouais. Et bon, avec ce système, en plus, on n'est pas obligé de retoucher aux bottes de paille, quoi. Les bottes de paille, tu les glisses entre les deux ossatures. Ouais. Après, bon, il y a un système, il faut les tasser un peu. Il y a des systèmes pour... tu mets un truc en fer pour tenir les deux ossatures, pour pas que ça s'écarte.
Oui, pour pas que ça s'écarte, plus on monte, pour que la pression et le poids...
Et puis tu montes comme ça, voilà. En fait, le principe est hyper simple.
Mais il n'y a pas... Oui, pardon.
L'ossature bois est faite qu'avec des chevrons, en fait. C'est que des chevrons 40-100. Donc, toute la maison est faite avec ça. Et en fait, il faut... pas beaucoup de matériel pour la construire, il faut avoir une bonne visseuse, un escabeau.
Oui, un escabeau, à moins de mesurer 2,50 m.
Une scie radiale, et c'est tout.
Mais il n'y a pas un peu des souris et tout ça qui se mettent dans la paille là?
Normalement non, parce qu'en fait, y a l'ossature, et le contreventement de l'ossature est fait avec du mortier.
Oui.
C'est-à-dire que c'est un mortier, on branche dans l'épaisseur des 40. On banche et on coule un mortier assez liquide avec de la sciure de bois, de la chaux, et voilà. Donc, ce qui fait le contreventement.
L'aspect avant l'enduit, en fait, c'est qu'on voit, plus la paille, en fait.
Il faut plus que l'ossature bois intérieure, extérieure.
Voilà, ok. Et donc ça, c'est... Puisque ta maison, c'est quoi? C'est une maison de plein pied, rez-de-chaussée, où il y a un étage?
Il y a un étage, c'est une maison en fait... Moi, en sous-bassement, j'ai eu du béton. Ça, c'est sûr que j'ai mis du béton, mais bon... Sinon, on peut faire en bois.
Oui, faire une dalle bois, oui.
Mais là, j'ai mis un radier, il y a 30 cm de gravillon, il y a 15 d'isolant, et le béton par-dessus.
Bon. On va être sympa, c'est quand même il n'y a quand même pas beaucoup de béton par rapport à une maison entièrement en parpaing.
On progresse.
Donc. Non. Mais après, le reste, c'est vrai que c'est complètement... ça ne coûte pas cher, quoi, en fait. Oui. L'intérêt, c'est que ça ne coûte pas cher et que c'est accessible à peu près à tous les gens qui savent bricoler.
En autoconstruction, tu veux dire. Ça se fait à plusieurs.
Il faut être un minimum bricolé.
Oui, c'est pas compliqué. Ouais, mais bon,
cela dit, ça coûte vraiment pas cher, puisqu'en ce moment, on peut en récupérer sur les autoroutes des bottes de foin.
Il y a des bons coups à faire. C'est de la paille. Hein.
Pardon. Il y a des prix sur les...
Moi, j'ai une question. Pourquoi t'as pas pris une dalle en bois? Pourquoi dalle béton?
En fait, c'est pour une histoire d'inertie.
D'accord.
Parce qu'en fait, moi, je suis exposé plein sud, j'ai des baies vitrées plein sud. Et en fait, de ce temps-là, par exemple, je ne chauffe pas du tout. Le soleil chauffe la dalle. Oui. Et la dalle, je prends la chaleur.
Donc, il y a du carrelage sur la dalle et voilà. Et dalle ensuite restitue.
J'ai 15 de béton et le carrelage.
La dalle restitue la chaleur le soir.
Donc, c'est économique de construction, mais aussi, du coup, sur le
long terme. Après, de toute façon, c'est une maison bioclimatique. C'est exposé plein sud. Et tu disais tout à l'heure, les expositions plein sud... avec la chaleur, mais de toute façon, il vaut mieux être exposé plein sud, même s'il fait très chaud. Ne pas avoir d'ouverture à l'est ni à l'ouest, par contre. Surtout à l'ouest, en fait.
Là, c'est la question du plein sud commence à se poser sur les gros ensembles, pas bioclimatiques du tout. Quand on construit une maison béton avec l'isolation relative, en ce moment, localement, on est relativement privilégié, mais si on descend plus dans la plaine Rhône et tout, où ils vont dépasser les 40 deux mois par an, c'est un peu l'idée, ça va être compliqué d'être exposé plein sud.
Ça dépend, parce que le soleil, il est en haut. Il tape pas dans la maison. Oui. Le soleil, il tape quand il se lève à l'est et quand il se couche à l'ouest. Mais si tu as des pare-soleils suffisamment pour...
Il faut que la maison soit conçue.
Et puis tu mets des arbres ou des trucs devant.
L'exposition.
Oui, tu mets une treille avec une vigne, un machin, un truc.
Pour limiter effectivement l'entrée.
Ou des panneaux photovoltaïques en ombrière, ou des trucs comme ça.
Mm-hmm. Ouais. Et donc... vous avez quoi comme moyen de chauffage du coup dans cette
nous,
maison?
Nous, on a un poêle, un petit poêle.
Un poêle, voilà. Ça suffit, pas de chauffage central.
Non.
Un peu d'électrique.
De toute façon, le principe des maisons bioclimatiques, si tu isoles, tu mets 200 au sol, 250 dans les murs et 300-400 sur le toit.
Oui, il n'y a pas besoin d'une grosse source de chaleur.
Et c'est bon.
Oui.
Hein.
Oui.
Et du coup, en couverture, toiture, c'est quoi?
Moi, j'ai mis des tavaillons. En fait, c'est de la planche.
Oui, ouais, tavaillons.
Oui, mais il y a aussi de la paille.
L'isolation, c'est la paille. Ouais.
Hein. T'as l'isolation et c'est du tavaillon en couverture.
Voilà, j'ai mis le tavaillon. En fait, c'est des planches de Douglas que j'ai coupées.
Mais tavaillon et bac acier, non? Il me semble.
Non.
Que tavaillon.
Ah oui,
tavaillon. D'accord. Okay.
J'apprends plein de termes techniques.
Alors, le tavaillon, oui, c'est vrai. Définissons peut-être le tavaillon. Ben, c'est une sorte de planche qui fait 80 cm de long et puis c'est cloué comme des ardoises avec du recouvrement.
Oui, ok.
Tu vois ce que c'est le recouvrement?
C'est comme du bardeau de bois.
Je vois que tu travailles chez Seven Evasion surtout.
C'est la construction historique du Jura, les tavaillons.
Oui, c'est ça.
Dans le Jura froid, c'était eux historiquement qui construisaient comme ça.
Ouais, ouais. C'est un toit en bois, en planche en fait.
Ouais,
qui est
étanche. Ça coûte pas cher non plus.
Ouais.
Jolie idée, c'est le terme.
Non traité.
Oui, Ben, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, j'ai une question. Est-ce que ça pourrait s'imaginer sur des constructions HLM sur 3,
mais
4, 5
ça existe, 6, ouais. Enfin, les ossatures bois sur des gros, sur des niveaux de 4, 5 étages, ça évite ça. Ah oui,
ils sont. Mais en paille, par contre, oui.
En paille, je ne sais pas.
Enfin, ouais, oui, d'accord.
Il doit y avoir en paille parce qu'il y en a en terre crue. J'ai vu sur Montpellier, ils ont construit une résidence avec 19 logements. Bah, je présume que c'est ossature bois
et terre crue. Remplissage en terre crue comme. D'accord.
Après, le pisé, tu peux faire des trucs en pisé aussi, mais sans ossature. Hein. En pisé, ils font des trucs.
Donc c'est
quand tu vas au Maroc, les baraques sont pisées. Bon, après, il ne faut pas que ça prenne trop la flotte.
C'est l'humidité, ouais. Le vrai défaut, c'est le risque, c'est l'humidité. Ouais.
Justement, pardon, la maison en paille, est-ce qu'elle elle est durable dans le temps?
Ah ouais. La première baraque, elle date de 1921, je crois, de ce principe-là. Il y en a une dans la région parisienne, c'est nickel, ça ne bouge pas. Non, après, il y a les sous-bassements, il faut pas, tu ne pars pas au ras du sol. Quoi.
Oui, sinon l'humidité
remonte. Il faut un sous-bassement
quand
même de 40-60. Quoi.
Oui.
Mais il faut pour pas qu'il y ait de la flotte qui remonte par capillarité. Tu mets du papier goudronné, voilà. Mais sinon, c'est dans le temps, normalement, ça ne bouge pas. Enfin, moi, c'est la mienne, ça fait...
Oui, elle a quel âge, ta maison?
2018, voilà, quoi. Oui.
Elle tient encore, 5 ans.
Voilà, 5 ans, c'est pas mal.
5 ans.
5-6 ans. Ouais. C'est agréable à vivre, en fait. Quoi. C'est
très... tu reviens dans 100 ans pour nous en parler. Hein.
Oui, je reviendrai bientôt.
Et est-ce qu'on te fait souvent la blague des trois petits cochons?
Oui, ça.
Voilà.
Non, mais ça bouge pas. Hein.
J'imagine que, du coup, en plus, si jamais elle devait être détruite, cette maison, il y a le côté paille qui est
ça, c'est stable. Je veux dire, tu fous le feu, il ne reste plus rien.
Oui, ok. Le but n'est pas de mettre le feu, mais
normalement ça résiste bien.
On peut composter sa maison.
On peut composter sa propre maison. Ouais.
C'est une bonne remarque parce que dans les cycles de vie qui étaient indiqués en introduction, c'est un peu biaisé parce que la partie bois, dans la mesure, elle est considérée comme brûlée à la fin du cycle de vie de la maison. Okay. Donc ce qui est un peu aberrant parce qu'on pourrait très bien considérer qu'on pourra réutiliser les poutres. Mais dans le cycle de vie qui est affiché sur le bois, c'est brûlé.
C'est
donc ça, c'est. Voilà. Donc bon. Donc il faut se méfier sur les indicateurs de cycle de vie.
C'est toujours, sur tous les indicateurs, on a toujours des discussions longues et techniquement, on n'est jamais. Il y a toujours de la. On peut ne pas être d'accord sur le principe. Après, c'est le principe, l'idée de l'indicateur, c'est essayer de ramener tout à
un même chiffre.
Le bois, considérer qu'on le brûle en fin de vie, c'est complètement débile.
C'est réutilisable, c'est sûr.
On peut en faire autre chose.
Ok, juste si par exemple quelqu'un est intéressé mais ne fait pas d'auto-construction, est-ce qu'il y a vraiment maintenant dans le coin des constructeurs qui construisent en paille ou pas encore?
Bah, il y en a, mais en fait, pas ce système-là, je pense qu'il y en a, mais en paille, il y en a pas mal qui font des trucs préfabriqués en atelier avec de la paille compressée à l'intérieur, quoi.
Des caissons alors fais ton mur, et puis t'arrives, t'assembles différents murs.
Ça, c'est fait surtout pour les autoconstructeurs.
Oui, c'est une bonne technique d'autoconstruction. Voilà. Donc, il faudra peut-être encore attendre un peu pour que la construction en paille se généralise.
Ce qui est réseau, électricité, passer la plomberie, tu le passes à l'intérieur de la paille ou tu le laisses...
Tu le passes derrière l'ossature.
Entre l'ossature et la paille.
Ou au sol, ou comme tu veux, comme une maison traditionnelle. Hein. Mm.
Eh ben, merci.
Sauf que c'est ouais, plus simple. Super.
Merci pour tout ce témoignage.
Mais tu restes avec nous. Tu peux rester encore un peu. Va.
Tu peux intervenir à n'importe quel moment.
On boira de la bière après.
Je vous propose d'ailleurs une petite pause musicale. On va s'écouter Fatigué de Renaud. Et on revient tout de suite avec la chronique de Manu.
C'est la cime du moindre peuplier et des arbres cœur infiniment plus tendres que celui des hommes qui les ont plantés pour toucher la sagesse qui ne viendra jamais. J'échangerai la sève du premier olivier contre mon sang impur d'être civilisé, responsable anonyme de tout le sang versé, fatigué, fatigué. Fatigué du mensonge et de la vérité, que je croyais si belle, que je voulais aimer, et qui est si cruelle, que je m'y suis brûlé. Fatigué, fatigué, fatigué d'habiter sur la planète Terre, sur ce grain de poussière, sur ce caillou minable, sur cette fausse étoile, perdue dans l'univers, berceau de la bêtise et royaume du mal, où la plus évoluée parmi les créatures a inventé la haine, le racisme et la guerre, et le pouvoir maudit qui corrompt les plus purs et amène le sage à cracher sur son frère. Fatigué, fatigué, fatigué de parler, fatigué de me taire. Quand on blesse un enfant, quand on viole sa mère, quand la moitié du monde en assassine un tiers. Fatigué, fatigué. De ces hommes qui ont tué les Indiens, massacré les baleines et baïonné la vie, exterminé les loups, mis les colliers aux chiens, qui ont même réussi à pourrir la pluie. La liste est bien trop longue de tout ce qui m'écœure, de l'horreur banale du moindre fait hiver. Il n'y a plus assez de place dans mon cœur pour longer la révolte, le dégoût, la colère. Fatigué, fatigué, fatigué d'espérer, fatigué de croire à ces idées brandies comme des étendards, et pour lesquels tant d'hommes ont connu l'abattoir. Fatigué, fatigué. Boire à l'eau des orages, me nourrir de la terre, être ami des oiseaux, et puis avoir la tête si haut dans les nuages qu'aucun homme ne puisse y planter un drapeau. Je voudrais être un arbre, plonger mes racines au cœur de cette terre que j'aime doublement, et que ce putain d'homme chaque jour assassine. Je voudrais le silence, enfin, et puis le vent. Fatigué, fatigué. Fatigué de haïr, fatigué d'aimer, surtout ne plus rien dire, ne plus jamais crier. Fatigué des discours, des paroles sacrées. Fatigué, fatigué. Fatigué de sourire, fatigué de pleurer, fatigué de chercher quelques traces d'amour dans l'océan de boue où sombre la pensée. Fatigué, fatigué. Fatigué.
Et on se retrouve cette fois-ci, on va donner la parole à Manu qui va venir nous parler des enjeux écologiques et économiques autour de la construction et de la rénovation.
Et bien voilà, tout à l'heure on a évoqué les petits cochons, c'était... ça m'a un peu spoilé parce que
j'avais pas voulu en parler. Désolé.
Parce que c'est vrai, la paille, le bois, la terre, tout ça c'est bon, hein. Comme dans le cochon. Ouais. Bon, alors, une fois qu'on a tranché la question des matériaux, je me suis quand même posé la question s'il valait mieux acheter une maison pour la rénover ou la faire construire directement. Alors voilà que j'ai trouvé que le scénario vers lequel on tend aujourd'hui, hein, qui est promu par l'État, c'est finalement la fin du mythe de la maison individuelle, ce qui nous permettra d'atteindre les objectifs de la société décarbonée en 2050. Parce que, bon, on pourra en discuter hein, avec nos invités. Oui. D'ailleurs, malgré tout, je remarque que depuis le 1er janvier, les prêts à taux zéro ne sont plus disponibles pour les logements neufs. Ah bon. Sans doute, c'est pour pousser les rénovations, parce qu'on a quand même un objectif ambitieux de 600 000 rénovations par an, des rénovations performantes, j'entends, d'ici 2030. Voilà, posé le terme du débat. Bon. Alors, rénovation thermique, rénovation énergétique, rénovation durable, éco-rénovation, bon, en fait, c'est quoi, qu'est-ce qu'on cherche derrière tout ça? C'est de répondre à quelques grands enjeux collectifs, mais aussi des enjeux personnels, hein, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire les consommations d'énergie, mais également améliorer sa santé, améliorer son confort, par exemple. Or, selon un proverbe qui mériterait d'être connu, feu et air vont de pair, n'est-ce pas ? Ainsi, ce qui parle de performance thermique doit penser à la ventilation. D'autant plus qu'avec le changement climatique, les températures intérieures risquent d'augmenter fortement, ce qui favorisera les émissions de polluants volatiles qui sont contenus dans les matériaux de construction quand ils ne sont pas éco, dans les peintures, dans les décorations, ouais, dans les objets d'ameublement, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui me semblait important de souligner.
Et dont on ne parle pas du tout, effectivement.
Et dont on parle peu, parce que finalement, quand on parle climat, on parle toujours carbone. Oui. Malgré tout, il n'y a pas que le carbone.
Non, non, oui.
Il y a aussi les dérivés du carbone. Mais il y a aussi l'eau. C'est ça dont je voulais parler, finalement. Merci pour cette transition, parce que dans une trajectoire qui va nous amener à plus 4 degrés en 2100, c'est ça la trajectoire qui est évoquée par les autorités. Il est donc raisonnable de commencer à récupérer l'eau de pluie. Moi, bon, là-dessus, il me semble qu'il y a quand même que discussion sur des interprétations du décret qui est sorti au mois d'août l'année dernière. Mais malgré tout, on peut considérer que dès aujourd'hui, on peut utiliser l'eau de pluie pour son jardin. On pourrait l'utiliser peut-être pour les toilettes, pour la chasse d'eau, sauf si, évidemment, on a opté pour des toilettes sèches. Voilà, tout ça, c'est des questions de choix, mais il faut voir quelles sont les priorités qu'on se donne en fonction des moyens dont on dispose. Bon, et justement à ce sujet-là, si ce qui est peut-être difficile de trancher entre la rénovation et la construction du point de vue du coût, parce qu'il me semble que les coûts se rapprochent. En tout cas, c'est ce que j'ai lu, mais vous pourrez me contredire avec plaisir. Donc, les travaux, enfin pour le neuf, aujourd'hui, hors terrain et raccordement au réseau, moi j'ai trouvé comme chiffre 500 euros par mètre carré en autoconstruction. Et puis ça peut aller jusqu'à 1500 euros le mètre carré, avec un petit peu de main d'œuvre, un petit peu de seconde œuvre à assumer, des finitions, etc. J'ai trouvé également que pour les maisons en bois, à ossature bois, on va dire standardisé, on peut compter 1800 euros le mètre carré clé en main. On peut peut-être trouver moins cher, hein, mais c'est une moyenne. Et quant aux rénovations énergétiques, bon, là, ça dépend ce que l'on vise. D'après mes sources, pour un bâtiment basse consommation, donc BBC, 500 euros le mètre carré, ça le fait. Maintenant, si on vise un logement passif, il faudra mettre 1700 euros le mètre carré. Ce qui fait que pour une maison à peu près de 100 mètres carrés, on est sur un coût en rénovation de 50 000 à 170 000 euros.
Oui, effectivement.
Sachant qu'on c'est va une somme. Amortir plus rapidement un bâtiment basse consommation, puisque énergétiquement, il est plus performant. Donc, on a des factures d'énergie qui sont moins importantes, logiquement.
Voilà, maintenant, il y a la question de l'emprise au sol. qu'il ne faut pas négliger, parce que finalement, ce qui est prévu dans la trajectoire de la France, c'est que la démographie ne justifie plus finalement la construction de logements individuels. Et que donc il vaut mieux, et puis surtout du point de vue efficacité énergétique, il y a quand même 26% de passoires énergétiques en Lozère. Donc si on ne s'attaque pas en priorité aux bâtiments qui consomment,
Oui, 26% ça me paraît faible. Hein.
Ouais, ça paraît très faible.
Si tu prends sur Florac,
je suis optimiste.
70%.
Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, pour entreprendre tous ces travaux, ça nécessite quand même pas mal de coordination. C'est certainement un poste clé, c'est à ne pas négliger. Donc en Lozère, on a un réseau de 140 entreprises RGE, donc ça veut dire... reconnu garant de l'environnement. Bon, vous nous direz ce que vous en pensez, mais c'est surtout, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'aujourd'hui, c'est le sésame pour pouvoir disposer d'aides de l'État. Oui. Donc, les prêts à taux zéro, ma prime rénov, etc., nécessairement, doit passer par ce type d'entreprise. Maintenant, pour avoir plus d'infos sur comment se faire financer ces travaux, on avait, dans notre première émission, invité deux personnes d'Octea, qui sont tout à fait aptes à vous donner beaucoup plus d'informations que ce que je vais pouvoir vous produire. Et donc, je vous donne le numéro de téléphone 04 66 311 333. Bon, et avant de terminer, il faudrait quand même parler du moment où on va habiter la maison qu'on a rénovée ou qu'on a construite. Et là, patatras, une étude nous apprend que la baisse de consommation d'énergie liée à la rénovation énergétique... Eh ben, elle est largement inférieure aux prédictions. Comme si on avait poussé le thermostat de 19 à 23 à l'insu de notre plein gré. Donc ça m'a fait cogiter et je me suis dit qu'il y avait peut-être une question philosophique et politique qui doit interroger notre vision de l'habitat à l'aune des enjeux climatiques. Et finalement, quelque chose qui va se situer entre une autonomie survivaliste ou une solidarité rurale. Voilà, j'en reste là pour l'instant, je vous laisse réfléchir.
Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ?
Climat débat.
Voilà, donc je me retourne vers nos invités. Alors j'ai évoqué des prix, je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Peut-être Richard, en ce qui concerne la maison en paille. Et puis après on pourra parler aussi avec Stéphane. Des dispositifs comme la foncière solidaire, en quoi ça peut nous aider dans nos projets, est-ce qu'on peut s'appuyer sur eux pour...
qui est en création encore, oui. On est au tout début du du projet.
Stéphane, Richard, allez, combien t'a coûté ta maison en paille ?
Moi, ma maison m'a coûté à peu près, je pense, 80 000 euros.
Ok,
d'accord.
Pour quelle surface ?
Oui. Pour une surface de 110 habitables.
Ok, j'étais pas si mal dans le créneau, mais c'était fait en autoconstruction.
Oui, ouais, tout en autoconstruction. Oui.
Mais par contre, en termes de matériaux, après, tu disais.
Ouais, enfin, pour ce qui est du bois, bon, la paille, j'en ai eu pour 1 000 euros. Oui. Ça m'a ce pas coûté une fortune.
Très peu, oui.
Et
oui.
Le bois, j'ai consommé à peu près 8 cubes de bois, à peu près à 550 les prix de maintenant, donc ce qui fait à peu près.
Ça fait 4 000. Tout le monde 4 000 et quelques euros.
Voilà, 4 500 euros, on va dire.
Voilà. Donc la matière
bon,
première.
Après, tout le reste, plomberie, électricité. Bon, la plomberie, c'est moi qui l'ai faite, donc ça ne m'a pas coûté cher. L'électricité, j'ai faite avec un copain, ça ne m'a pas coûté cher non plus. Voilà.
Enfin, il faut quand même acheter le matos.
Oui, il y a le matos.
Il faut avoir des copains.
Il faut avoir des copains. Ça c'est faire. Et attends, des copains qui savent faire de l'électricité.
En plus, plomberie, voilà, ce qui parce que des fois, le copain coûte plus cher.
Oui.
Il faut reprendre derrière lui.
Oui. Que si on n'a pas de copain.
Bon, merci. Du coup, Stéphane, tu peux nous parler un peu de cette foncière solidaire qui est en cours de création, si j'ai bien compris. Vous avez une réunion le 31 janvier.
Oui, c'est en gestation, là. En fait, on a un petit groupe d'habitants de Florac qui réfléchissent aux façons de proposer des logements, puisqu'on a quand même une belle crise du logement en Lozère, avec des salariés qui essaient de s'installer, ou des habitants, mais qui ne peuvent pas trouver de logement approprié. Et donc l'idée, c'est d'essayer notamment de se concentrer sur la rénovation. Ça, ça a été un parti pris aussi. On n'est pas sur de la construction. Hein. On est sur de la rénovation aussi plutôt en centre-bourg. Et de façon, parce qu'en centre-bourg, on a un gisement de bâtiments qui semble un peu, certains semblent un peu en déshérence. Bon, on s'est inspiré d'un certain nombre d'initiatives, comme la foncière Antidote, comme la logeuse à Saint-Martin-Mansusque, que certains connaissent bien. Et donc l'idée, c'est de poursuivre un peu ces initiatives pour proposer des logements qui seraient pour des personnes qui habitent durablement. Donc on vise, bien sûr, on veut éviter
le Airbnb,
ouais. Le saisonnier, voilà, c'est un peu donc on n'est pas dans cette logique là, ouais. Voilà, et on essaye de, alors c'est là aussi où on a une approche, on veut essayer aussi de modifier la relation qu'on peut avoir à la propriété pour essayer d'avoir une propriété collective sur un bien où les usagers vont avoir leur mot à dire et où on va essayer de mettre en place une gouvernance qui va assurer la durabilité de l'usage du bien. Donc, et on veut faire en fait de l'habitat une espèce de bien commun. Et on est en train de phosphorer avec des juristes pour savoir quel type de montage on peut avoir pour assurer la durabilité de l'usage et, voilà, et imposer le fait que ce soit un logement qui sont pour des personnes qui habitent à l'année sur notre territoire.
Oui, parce que quand tu dis ça, moi ça me fait penser, c'est quoi la différence avec une copropriété finalement ?
Alors, l'autre idée... C'est aussi d'éviter que le bien soit soumis au marché spéculatif. Donc l'idée, quand on dit bien commun, c'est d'éviter que on puisse, qu'on rénove comme une agence immobilière classique, on va rénover un bien, et puis ensuite on va le revendre au prix du marché. Donc c'est là que justement on n'est pas une copropriété classique, parce que l'objectif, c'est bien de retirer des négociations de marché le bien en question.
Oui.
Et il faut qu'on trouve les outils juridiques pour éviter que la structure qui va acquérir et ensuite gérer le bien puisse remettre sur le marché à des prix spéculatifs le bien en question.
Oui, hein, les habitants ne seront pas propriétaires d'un bout du bâtiment, ça sera une propriété collective. C'est ça l'idée ?
Oui, alors... d'un bout, ça peut être... Il faut qu'on voit comment on part. Ça peut être des parts, ça peut être... Voilà. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, une fois que t'es dans ce collectif, quelle que soit la forme juridique qu'il aura après, effectivement, t'as pas t'es pas individuellement, t'as pas de possibilité d'avoir un droit d'aliénation, on va dire, sur le bien. C'est une décision collective et qui, elle, va être encadrée par une espèce de charte ou par des statuts ou un règlement intérieur, il faut qu'on voit quel est l'outil juridique, qui fera que le bien ne pourra pas retomber dans le marché. C'est un peu ce que fait Village Vivant, qui est le propriétaire de la pompe, qui est le bailleur de la pompe, en fait, et qui acquiert des biens pour favoriser les petits commerces dans les territoires ruraux, et qui, justement, a pour objectif de garder et d'éviter que ces biens-là retombent sur le marché, à des prix que d'autres petits commerçants, ensuite, qui veulent reprendre l'activité, ne pourront pas se payer.
Oui, la pompe n'est pas propriétaire donc du bâtiment,
non.
Du nouveau bâtiment.
Non, elle est locataire.
D'accord. Ok, il paye un loyer. Et...
Voilà.
Ouais.
Et en plus, l'avantage qu'offre ce genre de structure, c'est que en fonction de la capacité du locataire à faire les travaux de rénovation, eh bien, le propriétaire, donc en l'occurrence Village Vivant, va plus ou moins investir dans les travaux en disant soit je vous livre un truc super clean, mais par contre, je vais être forcé de mettre un loyer quand même un peu plus cher parce que je ne veux pas faire des bénéfices, mais il faut quand même que je couvre mes coûts.
Oui.
Soit vous me dites, vous avez plein de bénévoles qui veulent venir faire du chantier participatif, et du coup, je vous livre un bien qui va être à moitié fini. Et c'est ce qui se passe avec la pompe actuellement, qui font beaucoup d'appels chantier participatif et qui finissent les travaux. Et comme ça, ils peuvent se permettre d'avoir un loyer bien inférieur.
Mais du coup, dans un système comme ça, comment on s'assure de la performance énergétique du bâtiment ?
Comment on s'assure ? On fait appel à des personnes qui sont compétentes et qui ont de l'expérience, qui ne sont pas forcément labellisées. Mais c'est un peu, effectivement, nous, dans le collectif, notre objectif, c'est de faire... Alors, on veut faire appel aussi bien à des bénévoles qu'à des prestataires. Ça, on n'a pas encore, on n'a pas d'exclusive là-dessus. Et effectivement, quand on fait appel à des bénévoles, on va jouer sur la confiance avec des personnes qu'on connaît, qui ont déjà une expérience dans le groupe. Il y a des personnes qui ont déjà des expériences de rénovation thermique. Et donc, on sait qu'ils sont au point, même s'ils n'ont pas été labellisés. Et puis, bon, on sait ce qu'il y a derrière le label. Des fois, ce n'est pas toujours pertinent.
Mais pourquoi ils viendraient alors faire un peu de bénévolat pour ce projet? Parce que le projet leur plaît, qu'ils sont motivés?
Parce que le projet, politiquement, les intéresse. Estiment que c'est une façon de travailler pour la cité, pour le bien public. Et donc, ils vont s'engager dans l'aventure.
Des coups de main.
Ce sera un projet pour combien de familles, là?
Alors, il n'y a pas de limite. Actuellement, on est sur un projet sur un bâtiment en centre-bourg où l'objectif, c'est de rénover deux duplex dans un bâtiment. Là, on teste à petite échelle. C'est ce qu'on appelle un peu le crash test pour le collectif, où on veut voir, tester la confiance. Et puis, parce qu'on est dans un contexte que je ne vais pas développer ici, mais qui fait que les propriétaires ont déjà engagé pas mal de rénovations, ce qui fait qu'on va pas avoir beaucoup d'argent à mettre le collectif. Parce que pour le moment, on n'a pas encore fait de levée de fonds, on n'a pas d'argent. Donc on travaille avec des bénévoles et on va agir là-dessus. Mais ensuite, l'idée, bien entendu, comme Saint-Martin-Lensus avec la logeuse, c'est de faire appel à des levées de fonds ou à des donations, puisque la logeuse, ils ont eu une partie, il y a un des biens qui leur a été donné. Et donc on réfléchit à pourquoi pas mettre en place un fonds de dotation, ce qui permet d'avoir des dons défiscalisés. Donc je fais un peu appel aux propriétaires qui nous écoutent et qui seraient
Si vous avez des maisons à donner, allez-y.
Non, mais si vous avez une maison en ruine qui vous coûte beaucoup de charges, vous savez, les impôts fonciers, ça coûte.
Ça va augmenter au plus.
Et ça va augmenter.
Beaucoup.
Ça va augmenter. Donc, et puis si elle est un peu en ruine et puis qu'il y a une des pierres de votre maison qui est crabouille, un résident, vous avez la responsabilité civile en plus.
Merci Stéphane.
Donc voilà, donc ne vous restreignez pas. Donnez au collectif Logement de Florac.
Appelez Bartas et on fera suivre à l'intéressé.
Est-ce que tu peux. J'ai une question en fait. Après, il va y avoir qui va occuper ces logements en fait. Comment ça va se passer vraiment? Est-ce que ça va être comme des logements sociaux? Est-ce que ça va être comment les parce que ça doit être compliqué. Quoi de neuf se tire les cheveux pour trouver des logements, etc. Comment les locataires vont être choisis entre guillemets?
Alors la question des bénéficiaires, ça c'est une question qui effectivement nous a agité un peu. Alors nous on s'est dit, on ne va pas concurrencer Quad 9 et les structures de logements sociaux. Et on a identifié le fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui arrivent en Lozère et qui sont au-dessus des minima sociaux et qui ne peuvent pas se loger. Donc nous, c'est un peu cette cible-là qu'on vise. Hein. Et en plus, Quad 9, ils visent des populations qui sont en dessous des minima sociaux, qui parfois ont des problèmes d'intégration et qu'il y a un accompagnement psychologique, etc., que nous, on n'est pas capable de faire, clairement. Donc, c'est pas dans notre zone radar et nous, on intervient au-dessus. Et donc, c'est ce que j'ai dit, c'est au-dessus des minima sociaux et habiter à l'année. Pour le moment, voilà, c'est le critère. Ensuite, on va voir comment on affine, parce que le jour où on aura 10 personnes qui vont venir, comment on va faire? On n'a pas encore mis en place tous les critères, mais on a des critères généraux qui sont ceux-là. Ensuite, l'idée, ça sera effectivement peut-être de mettre en place une charte de vie dans le bâtiment, par exemple, comme pour une AMAP, dans une AMAP maraîchère, quand vous rejoignez l'AMAP, vous devez contribuer à un certain nombre de tâches collectives. Donc peut-être que, sur le modèle des AMAP, dans la charte, on intégrera des travaux communs sur les espaces communs qui devront être effectués par les locataires, etc. Et puis on va voir, alors ça, je sais que la logeuse, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas réfléchi à cette réflexion, à cette relation. Est-ce qu'il faut modifier la relation pour ne pas être dans une relation classique bailleur-preneur? Est-ce qu'il faut faire évoluer ça? Et nous, on aimerait bien aussi qu'effectivement, les locataires s'impliquent dans le collectif et en signant une charte et en montrant qu'ils adhèrent un peu aux valeurs du collectif. Donc ça, on va voir effectivement comment on développe ça.
Oui, parce que c'est vrai que ça peut représenter une vraie difficulté, ça, quelque part, pour les bénéficiaires. Il y a un peu ce commun qu'il faut recréer, mais dans les esprits aussi. Parce qu'on voit bien dans nos villages, on a un lavoir commun, on a un four banal, mais progressivement, bah, finalement, le four, maintenant, on l'a tous dans la maison, le lave-vaisselle, il est dans la maison, le lave-linge aussi. Et on a eu des discussions en préparant cette émission de, il y a des gens qui, sur l'éco-hameau, par exemple, de l'Hispaniac, en fait, ils sont très réticents à recréer du commun parce qu'ils veulent pas partager la machine à laver avec le voisin, parce que c'est leur machine à laver, ils veulent pas que... Enfin voilà, ils ont des blocages, on va dire. Et recréer ce commun, c'est, je pense que ça peut être la question un peu compliquée. C'est intéressant que vous y penchiez dessus.
Bah dans le bâtiment en question dont je parle, il y a une buanderie commune. Donc voilà, il y aura des espaces communs. Et donc, effectivement, il faut ensuite qu'ils soient gérés, que ce ne soit pas le BINS. Donc il faut que les gens soient impliqués et qu'on formalise ça.
Oui. Alors on a beaucoup parlé de l'aspect solidaire et tout ça, mais sur l'aspect plus rénovation, vous vous êtes fixé un cahier des charges, vous avez des objectifs
Alors on a une commission travaux qui travaille là-dessus, effectivement, et l'idée c'est de travailler essentiellement avec des matériaux biosourcés, comme on dit, avec un cahier des charges. Ensuite, il faudra qu'on voit où est-ce qu'on met le curseur entre les moyens financiers qu'on va avoir, les exigences thermiques et autres qu'on va avoir. Mais effectivement, la logique de départ, c'est bien effectivement d'aller vers une rénovation qui, à mon avis, c'est la plus rentable en plus, parce que les matériaux biosourcés sont ceux qui sont les plus durables généralement. Donc de toute façon, on s'y retrouve sur le long terme. Oui. Mais le problème, c'est que des fois, au début, il y a une mise de fonds qui est plus importante.
Oui, et je me suis laissé dire, alors c'est peut-être une rumeur, que aussi vous vouliez peut-être utiliser des matériaux justement de récupération, beaucoup pour une partie des travaux.
Alors il y a beaucoup.
On pourra parler de la matériothèque qui se fait ailleurs, et Yannick peut nous en dire un mot après. Là, c'est aussi quelque chose de.
Voilà. Alors dans ce bâtiment, il y a déjà des logements qui ont été faits, qui sont actuellement en location. Pas par le collectif, mais par les propriétaires, et donc qui sont membres du collectif. Et c'est évidemment dans cette logique de récupération. Il y a une cuisine qui a été entièrement récupérée, par exemple. Je cite juste cet exemple-là.
Des meubles,
Des meubles, voilà. Oui. Du carrelage entièrement récupéré, des poignées de porte. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup de récupération. Et donc l'objectif, c'est effectivement d'essayer de développer au maximum ce point-là.
Oui, mais qui est exactement le principe de ce qu'on avait regardé, de ce qu'ils appellent maintenant les matériothèques. Pour donner une deuxième vie aux matériaux inutilisés des chantiers, souvent, parce que dans les gros chantiers de construction, il y a toujours des chutes ou trop de carrelage ou trop de boiseries.
Ou sur les démontages de maisons ou d'immeubles.
Toutes ces pièces-là, au lieu de les envoyer en déchetterie ou n'importe où, ou en décharge, ou dans les rivières de temps en temps, parce qu'on peine souvent les camions avant d'arriver à la déchetterie, hein, mais c'est un petit détail qui me perturbe régulièrement.
C'est interdit, d'ailleurs.
C'est interdit, mais ça se fait quand même.
Oui.
Beaucoup. Récupérer tout ça et les remettre à disposition. Moi, j'en ai pas trouvé en local, voire en Occitanie. Les quelques-unes qui existent, elles sont plutôt région Bretagne.
Ah oui, c'est naissant, ouais. Alors, comme...
À Briançon aussi.
Ouais, mais
proposer c'est... le truc à Martinazo ou ce genre de truc, non?
Récupérer, que ça revienne, en fait. Et leur logique économique ou socio-économique n'est pas d'être rentable, mais de ne pas vendre en dessous des prix du marché pour ne pas rentrer en concurrence aux vendeurs non plus, de ne pas faire de la sous-vente, parce qu'après, on rentre dans les... dans la libre concurrence, hein, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est les règles, et ils vont se retrouver au tribunal, donc d'essayer de ne pas trop s'éloigner des prix du marché, mais tout en recyclant.
Et très souvent, en plus, c'est plutôt associatif comme milieu,
c'est des milieux associatifs, et c'est souvent pour l'autoconstruction, parce qu'on ne va pas trouver 120 mètres carrés de carrelage d'un seul tenant. Ça va être des petits bouts par-ci, par-là. Donc c'est pour
j'avais besoin d'un peu de carrelage.
Un peu, mais pas 120. Et on s'est posé la question de est-ce que c'était possible à développer en local ou pas. C'est un peu de qu'est-ce que qu'ex-professionnel
le problème, c'est que les grosses ressourceries, elles sont à côté des grosses villes, quoi. Ouais. Ou dans les grosses villes. Ici, que dalle, hein. Pas grand chose.
On est bien d'accord.
J'ai pas l'impression qu'il y ait tant de maisons que ça et tout ça qui soit démonté.
Tu peux récupérer des trucs. La déchetterie, tu récupères pas grand chose.
Ouais. Pourtant, le château de Castelbouc a été démonté par les habitants pour le village, il me semble. Il y a eu quand même une forme de récupération à un moment donné.
Ah oui, il y a pas mal de.
Et
par rapport à cette foncière, vous vous ciblez que justement des bâtiments d'habitation ou est-ce que vous êtes ouvert sur des bâtiments? Je pense qu'il y avait la pizzeria sur l'esplanade qui était à vendre pendant un temps avec un bâtiment d'habitation au-dessus, puis le local commercial en dessous. Vous avez parlé d'installer des salariés, enfin des gens qui travaillent et qui vivent ici à l'année. Pour vivre ici à l'année, il faut de l'activité. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs, de vos missions, de vos réflexions?
On n'a pas pour le moment envisagé ça, mais bon, c'est pas exclu. Hein. On est vraiment dans une phase de cogitation encore, même si on veut pas seulement que réfléchir, hein, on veut aussi mettre la main à la pâte. Donc on commence les travaux, mais voilà, on va faire les deux, on va paralléliser et en plus on a un noyau dur de participants qu'on va élargir progressivement avant de faire des réunions publiques et donc on veut avant de présenter quelque chose effectivement rediscuter avec les nouveaux participants qui vont arriver parce qu'on n'a pas assez de personnes pour nourrir nos commissions. Et donc, effectivement, cette question-là, il faudra qu'on se les pose et qu'on essaie de trouver des premières réponses.
Et du coup, c'est le 31 janvier à l'Encrier, c'est ça que voilà. Vous organisez votre première réunion d'info pour avoir des volontaires. Donc, si...
Voilà. Des personnes qui veulent vraiment s'impliquer dans ce qui s'apparente comme une foncière. Et c'est quand même quelque chose qui implique un engagement quand même assez important.
Mmh. Voilà. Ok, super.
À quelle heure, donc, le 31 janvier, Stéphane?
18h.
18h.
Eh ben merci beaucoup. Je vous propose une petite pause musicale, avec Le Cœur du Monde de Bernard Lavilliers, et on enchaîne.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes. Et de la solitude le croise de plus en plus, la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent, attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner. Enchaîner, enchaîner. C'est juste après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés. Brûlés.
Et on se retrouve de nouveau pour la dernière chronique. Alors vous savez, on aime bien du coup maintenant finir par une sorte de billet d'humeur. Donc j'ai essayé d'écrire la chronique, mais honnêtement c'était une vraie catastrophe. J'ai tout supprimé parce que je n'étais pas content du résultat. À la place, je vais quand même pousser un petit coup de gueule.
Je peux mettre le petit virgule.
Vas-y. Ouais. Fais-toi plaisir.
Donc après, je vais passer un petit coup de gueule parce qu'on nous bassine de plus en plus que pour sauver le climat, c'est avant tout un effort collectif. Mais quelque part dans cet effort, bah, y a quand même quelques individus qui jouent pas du tout le jeu. Et il y en a notamment un qu'il va falloir certainement calmer, que tout le monde connaît pour son antipathie et son côté Dark Sasuke du 58. Le gars possède une propriété de 365 000 mètres carrés. Rien que ça. Donc ça représente 21 700 tiny houses de 17 mètres carrés. Ou 182 500 chambres capsules. Vous savez, mais qui sont ces chambres très à la mode en Asie, qui font 2 mètres carrés. Ouais, vous allez l'apprendre. donc 365 000 mètres carrés. Je vous raconte pas le melon qu'il faut avoir. Parce que le type vit seul, en plus. Hein. On lui connaît pas de famille, pas d'enfants, pas de femme, pas de cousin éloigné, ouais, pas d'oncle raciste, aucun animal de compagnie.
Il a un chien.
Et là, aucun animal de compagnie.
Par contre, tu balances pas mon nom, hein.
ils auraient été trois, on aurait pu se dire ouais, ça va, c'est seulement 120 000 mètres carrés par personne, c'est presque raisonnable. Mais le mec vit seul. Hein, je vous disais, il est connu pour être antipathique, ce qui favorise certainement pas les relations amoureuses, amicales.
Après,
en plus de ça, il se vante d'avoir un régime ultra protéiné. Il se nourrit exclusivement de protéines animales, matin, midi et soir. Donc autant vous dire que c'est zéro effort pour modérer son empreinte carbone.
Ouais, il coche vraiment toutes les cases, lui, alors.
Il va nous plaire.
Ouais. Et le type vit exclusivement la nuit aussi. Il n'aime que les lumières artificielles.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il allume tout sur 365 000 m².
Voilà. Il n'aime pas du tout la lumière du soleil. Du coup, face à ça, bah, mon seul pouvoir, hein, c'est de balancer son nom et son adresse.
Ah,
en espérant qu'il y ait une zone à défendre qui s'ouvre sur sa propriété. Donc l'adresse, hein, c'est le château de Bran en Roumanie, c'est pile entre la région de Transylvanie et de Valachie, et son propriétaire, c'est le très célèbre Vlad Tepes, aussi connu sous le nom, le sobriquet de Dracula. Voilà, le principal problème, c'est qu'il est un peu radical dans ses méthodes pour accueillir les personnes indésirables. En effet, il se fait quand même surnommer Vlad l'Empaleur. Et c'est pas anodin parce qu'à chaque fois que quelqu'un se pointe, il lui dévisse la tête pour la planter sur une lance qu'il plante dans le sol pour prévenir les prochains. Et il fait ça sur plusieurs kilomètres autour de sa maison. Donc vraiment grosse ambiance.
On l'adore.
Voilà, donc autant vous dire qu'avec ce genre de nantis et ce genre de méthode, la bataille pour le climat, c'est pas gagné.
Bravo, non, bravo. Mais oui, mais Dracula.
Ah ouais, Dracula, oui, l'empreinte carbone de Dracula, on n'en parle pas assez, je pense.
Il faut écouter des podcasts sur lui, je mettrai sur le site si vous voulez. Il y a un podcast sur vraiment qui il était, c'était un taré. Hein.
C'était un taré. Après, c'est beaucoup de la mythologie. Hein.
Pour le coup, là, le podcast, c'est vraiment le personnage historique. Et moi qui suis fan d'histoire, il était incroyable. Mais c'était un
fou. D'ailleurs, tu me fais penser que si vous voulez écouter ou faire ou transmettre l'émission, hein, vous pouvez la trouver sur le site internet de Bartas et l'écouter en rediffusé.
Bravo.
Quelle transition.
Merci regardez beaucoup, la tout le monde. Et puis, je crois qu'on peut conclure. Merci à vous d'être venus. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un mot de la fin?
Ouais, la prochaine émission, quand même, elle se passe un jour exceptionnel. Oui. Quoi.
Ah oui, le 29 février. Et profitez-en parce que bah, pendant 7 années, pendant 3 années passées, il n'y a pas eu d'émission le 29 et il n'y en aura pas dans les 3 suivantes non plus. Donc voilà,
ça va être la meilleure.
Un rendez-vous exceptionnel.
Bon, en tout cas, merci Richard, merci Stéphane d'avoir aidé à y voir peut-être un peu plus clair.
Merci à toutes les auditrices et auditeurs. Merci aussi à Ben pour la technique.
Avec plaisir.
Merci à Léo qui n'est pas là ce soir, mais j'ai décidé de remercier toutes les personnes qui ne seraient pas
raison.
Là.
Merci à Véro alors.
Merci à Véro aussi.
Ça, on sera rien.
Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo. Mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futées. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter. Ouais.
Bon, j'ai pas dit ma phrase, mais je vais dire la prochaine fois.
Ouais, mais celle-là, ouais. Et celle-là, de façon.
Ah, ouais, ouais, c'est vrai, là.
On
ah
se fait
ouais.
Les t-shirts, là.
J'ai pas menti, c'est
vrai. OCA, les t-shirts comme ça, et derrière le logo Barthes.
AOC.
AOC. Je n'ai pas menti, mais c'est la réalité qui me donne tort. Et derrière le logo Barthes.
Moi, dans le boulot, je me rappelle, on disait, fallait jamais dire, je sais pas, fallait dire, j'ai pas cette information.
Ah, oui,
tu vois.
Ah, ouais, mais ça,
je n'ai pas cette information.
Oui, oui.
Mais voilà, c'est un peu dans le même style.
Oui, 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 c'est ça.
J'ai pas menti, alors, c'est la réalité qui me donne tort.
Voilà. Là, c'est pire quand même. C'est quand même pire.
Un peu pire.
Ouais, juste avant, il y a Macron qui avait quand même dit. Je dirais pas que c'est un échec.
La prochaine,
ça n'a pas réussi.